se connecter, c'est ce que je veux dire. Amen. Je vais commencer ce matin un autre thème que je veux traiter en janvier. Vous savez, au niveau de l'Assemblée du plein Évangile, nous voulons réellement accomplir la volonté de Dieu en tout point. Et le thème que j'aimerais toucher en janvier, c'est vrai, il faut que je vise François, j'oublie tout le temps. Le cœur de Dieu. J'avais parlé qu'on allait toucher le cœur de Dieu. Que tous soient inclus. Nous voulons accomplir la grande commission. Et j'aimerais qu'on puisse regarder. Et je veux pas qu'on accomplisse les choses juste pour accomplir, de dire, ah, tiens, le pasteur l'a dit, on va le faire. Mais j'aimerais qu'on puisse faire les choses parce qu'on croit réellement que c'est ce que Dieu s'attend de nous. Et qu'est-ce que Dieu s'attend de l'Assemblée du plein Évangile concernant les nations, concernant Ville-la-Salle, concernant notre environnement et concernant jusqu'aux extrémités de la terre? Et j'aimerais qu'on puisse faire un petit survol pour vraiment saisir le cœur de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde le comportement des Juifs au temps de Jésus, on risque de pas être capable de saisir le cœur de Dieu. Quand on regarde peut-être présentement même comment la religion a évolué, où les Juifs en sont aujourd'hui, peut-être qu'on sera pas capable de saisir vraiment le cœur de Dieu. Et quelquefois, quand on regarde nos propres comportements, en tout cas pour moi, ça date pas plus loin de vendredi, où j'ai prononcé une parole et je me suis aperçu une fois que c'est sorti de la bouche que ça aurait pas dû sortir. Ça vous arrive? Et de dire « wow ». Et là, tu as le goût de te mettre les pieds dans la bouche, mais heureusement que je suis pas assez flexible pour ça. Et quelquefois, lorsque les gens vont regarder nos comportements, ils vont pas toujours nécessairement saisir pleinement c'est quoi le plan de Dieu à travers nos vies et quelquefois à travers l'Église. Mais j'aimerais qu'on puisse regarder à travers la parole de Dieu. Quel est réellement le cœur de Dieu? Vous connaissez ce fameux verset qu'on appelle souvent la grande commission, qui est les derniers versets des évangiles, parmi les dernières paroles que Dieu a prononcées, c'est un commandement où Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est un verset clair et quelquefois on pense, moi j'ai pendant un certain temps pensé que Dieu à quelque part en cours de route avait changé son idée. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, c'est comme si Dieu a fait quelques tests avec le peuple d'Israël. Ensuite, il s'est lancé at large pour tout le monde. Et là, Jésus a apporté ce commandement clair, aller dans toutes les nations, aller annoncer l'Évangile. Ce qu'on appelle la Grande Commission. Mais lorsqu'on étudie à fond, on s'aperçoit que c'était l'intention de Dieu depuis pas mal longtemps. Et quelquefois, on ne saisit pas, quelquefois à cause du comportement du peuple d'Israël, à cause du comportement même des chefs religieux au temps de Jésus, c'est comme si ça embrouille un peu les cartes, ça embrouille un peu l'image. J'aimerais faire un petit sondage ce matin. Juste avant, je fais une parenthèse. Je voulais juste rappeler la première annonce que j'ai faite dimanche passé concernant la jeunesse. Vendredi soir, c'est une réunion jeunesse. C'est votre réunion, les jeunes. Mais j'aimerais que vous puissiez découvrir quelque chose de différent au niveau de la prière ce vendredi. Pourquoi rendre la prière ennuyeuse quand ça peut être le fun? Et j'aimerais qu'on ait comme but ce vendredi que tu puisses sortir chacun de vous de la réunion de prière ou de la réunion de jeunesse de dire « Hey, wow, c'est ça la prière? Hey, mais c'est le fun! » Parce que quelquefois, on voit la prière comme étant un exercice long, ennuyant, pénible, douloureux, un exercice de persévérance, un acte qu'on pose. J'aimerais qu'on puisse voir la prière autrement cette semaine. Et c'est pour ça que j'aimerais inviter la jeunesse et les parents, vous êtes invités à la jeunesse. Parce que les jeunes, vous allez aussi prier pour vos parents ce vendredi soir. Ça fait partie des requêtes de prière. J'aimerais en tout cas que moi, mes enfants prient pour moi aussi. Donc, juste une petite parenthèse. Cette semaine, c'est la semaine de prière. Et j'aimerais qu'on puisse aussi nous prendre un petit moment ou qu'on puisse prendre l'occasion pour dire, Seigneur, je veux mettre du temps de côté. Je vais mettre du temps de côté pour passer un peu plus de temps dans ta présence. Et pourquoi ne pas jeûner? Que ce soit jeûner de nourriture, que ce soit de jeûner d'un repas, que ce soit de jeûner de dessert, jeûner d'Internet, jeûner d'SMS, je sais pas, jeûner de réseau, jeûner de temps qui vide notre journée de plusieurs heures pour prendre un moment intime avec Dieu. Pourquoi ne pas le faire? en plus de notre temps qu'on va passer ensemble, de nos rencontres qu'on va passer ensemble le soir. OK, j'aimerais faire un petit sondage ce matin. J'ai mis quelques pays d'origine, mais j'aimerais qu'on puisse le faire online directement, en ligne, en direct, je dirais plutôt. J'aimerais qu'on puisse évaluer les nationalités qui sont représentées, les nationalités d'origine qui sont représentées ici à l'Assemblée du plein Évangile, avant même qu'on puisse continuer. J'en ai mis quelques-unes, peut-être certaines ne sont pas de ces pays, et je sais qu'il en manque plusieurs, donc je les nomme rapidement. Qui vient du Canada? Oh, il y en a qui vont dire « Non, moi je viens du Québec ». C'est la même chose. OK. France. On a des gens de France. Oui, bravo. On a des gens du Mexique. Est-ce qu'il y a des gens du Mexique ce matin ici? Oui. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a des gens du Guatemala? J'ai mis Guatemala. Est-ce qu'il y a des gens ce matin ou est-ce que vous connaissez des gens qui habituellement viennent? Ça peut vous lever la main pour eux? Non? OK. Donc, ça veut dire que j'enlève Guatemala. El Salvador. Il y a des gens du El Salvador? Comme ce sont des pays? OK. El Salvador est inclus. Honduras. Oh, bravo. Nicaragua. Il y a des gens du Nicaragua. Agitez votre main si vous avez remarqué que je ne vous vois pas. Là. Nicaragua, on n'en voit pas. Costa Rica. On a des gens du Costa Rica ce matin. Costa Rica une fois. Costa Rica deux fois. On continue. Colombie. On a des gens de la Colombie. Oui, bravo, on a des gens de la Colombie. On a des gens d'Italie. Oh, d'origine. Notre fier Italien, Francesco. OK, Côte d'Ivoire. Il y en a plusieurs. RCA, République Centrafrique. Centrafrique. Mm-hmm. RDC, République démocratique du Congo. Il y en a. Congo lui-même. J'ai fait le RDC, Congo. OK, on continue. Rwanda. Il y en a quelques-uns du Rwanda. Mm-hmm. Burundi. OK, parfait. Maintenant, j'ai assez parlé à votre tour. Qui n'a pas été nommé? Haïti, d'accord. Haïti. On continue. D'autres? Je veux que tout le monde soit représenté. Oui. Tchad, d'accord. On continue? Vas-y, je t'écoute. Pérou. Ah! On continue? C'est où? Ça, je connais pas. C'est où ça, la Gaspésie? Ah. D'autres? D'autres pays d'origine qui n'ont pas été mentionnés? Île Maurice?
Eh oui!
Chine? Mm-hmm. Belgique? Est-ce qu'on a des gens de Madagascar? Oui? Voilà. Je note en même temps. D'autres? Il y a des gens de Cuba? Mm-hmm. Okay. Ensuite? Portugal. OK. D'autres? Je ne veux pas que personne se sent mis de côté. Puisque tout à l'heure, nous disions que Dieu veut que tout soit inclus. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 pays représentés au milieu de nous. Gloire à Dieu. Alléluia. Eh bien, je suis étonné. Je pensais pas que c'était autant. Je suis étonné. Gloire à Dieu. Amen. Donc, l'Assemblée du plein Évangile a vraiment mis en son sein, en pratique, le verset « Faites de toutes les nations des disciples mm-hmm. ». Amen. Vous savez, l'intention de Dieu depuis le commencement, on fait un petit historique ce matin. Et comme il y a énormément de choses à voir, on va ensuite compléter la semaine prochaine. Mais j'aimerais qu'en ce mois de janvier, on puisse chacun réfléchir, Est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Dieu s'attend de moi par rapport aux missions, par rapport à la mission globale de l'Assemblée du plein évangile, commençant ici et allant jusqu'aux extrémités de la terre? On avait déjà mentionné que le premier appelé, c'est Abraham, et on avait mentionné récemment qu'Abraham, c'est un Irakien. Si Abraham vivait aujourd'hui, il aurait la nationalité irakienne, tout simplement. Et le premier appelé, Dieu a dit à Abraham qu'il le choisissait pour un but précis. Il l'a appelé à devenir son peuple pour accomplir le grand but de Dieu. Pour accomplir le grand but de Dieu. Et la question, c'était quoi le grand but de Dieu? L'intention de Dieu depuis le commencement. Et on a plusieurs versets qui en parlent, mais à chaque fois que Dieu se révèle à Abraham, et ça on retrouve des différents passages dans Genèse, à chaque fois, Dieu rappelle un point important du contrat. Je t'ai choisi. Mais il y a un but derrière ça. Deviens une source de bénédiction. Deviens une source de bénédiction dans Genèse 12, verset 12. Un peu plus loin, juste le verset suivant. Toutes les nations ou toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Moi, j'ai longtemps pensé que Dieu avait choisi un peuple, tout ça, parce que c'était le peuple chouchou de Dieu et que Dieu avait décidé de travailler avec un peuple. Mais lorsqu'on va regarder quelques versets, on va s'apercevoir que c'est peut-être que Dieu avait l'esprit plus large que nous, on l'a nous-mêmes. Et ça continue, il y a d'autres versets. Lorsque Dieu s'est manifesté, lorsque les anges de Dieu se sont manifestés pour aller détruire Sodome et Gomorrhe, ils se sont dit, mais est-ce qu'on va cacher à Abraham ce qu'on compte faire? Et dans ce verset-là, en Genèse chapitre 18, un autre verset, il dit, Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est un incontournable. Abraham est devenu un incontournable dans le sens que Dieu réalisait clairement son but pour lui. Il avait choisi Abraham, mais dans un but que toutes les nations de la terre soient bénies. Un peu plus loin, lorsque Abraham a été mis à l'épreuve, lorsque Dieu lui a demandé, tu vas aller sur telle montagne et tu vas me sacrifier ton fils, celui que tu aimes, ton unique Isaac. Et il n'y avait pas moyen de se tromper. Et lorsque Abraham a obéi et il est allé vraiment jusqu'au bout, je pourrais dire, de ce test, suite à l'obéissance d'Abraham, encore dans le verset 18 de Genèse chapitre 22, on a encore cet élément qui ressort. Toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Hey! Une personne, une seule personne à quelque part sur une montagne déserte, au gros soleil, il vient juste d'y échapper belle. Dieu lui a dit, non, sacrifie pas ton fils. Pfiou, j'ai échappé belle. Et toute cette obéissance, cette marche pendant quelques jours dans un lieu désertique sous la chaleur du soleil, il est là seul au milieu de nulle part avec son fils. Et Dieu dit, à cause de ce que tu viens de faire, là, toutes les nations de la terre seront bénies en ton nom. Nous, on dirait aujourd'hui, si tu veux de l'influence, il faut aller sur les réseaux, il faut te monter une grosse campagne de marketing, il faut faire un buzz planétaire pour que la nouvelle se répande. Ici, Dieu dit à Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies par ta descendance parce que tu as écouté ma voix. Et si vous ne connaissez pas l'histoire d'Abraham, Abraham, avec son père, vivait en Mésopotamie. On aura une carte qui va nous aider à expliquer. Il était à Ur en Chaldée et il a déménagé avec son père. Ils sont allés jusqu'à Charan. Ensuite, il a continué de lui-même. Et il a voyagé jusqu'en Palestine. Et ensuite, il est allé jusqu'en Égypte. Il est allé là-bas jusqu'en Égypte. Et on voit qu'Abraham a fait tout un pèlerinage. Et ensuite, suite à Abraham, il n'y a pas seulement Abraham. Ensuite, il y a Joseph un peu plus tard qui s'est retrouvé en Égypte. Ensuite, Jacob et toute la famille se sont retrouvés en Égypte. Ils ont pris les déménagements et puis toute la famille, le peuple d'Israël de l'époque, ont tous déménagé en Égypte. Ensuite, ils ont passé environ 400 ans en Égypte. Et si vous connaissez l'histoire, Joseph est devenu le second après Pharaon en Égypte. Il a été très puissant. Et lorsqu'on regarde tout ça, ils n'ont pas réalisé tout d'un coup un matin en se réveillant qu'il devrait être une bénédiction pour les nations probablement. Ou bien se réveillant un matin pour dire « Hey, on est missionnaire en Égypte! » Ça s'est pas passé comme ça. Et je crois pas que leur venue en Égypte était simplement un hasard. Je ne crois pas que Dieu fait des hasards dans ce sens-là. Mais en réalité, ce qu'on peut se poser la question, est-ce que c'est possible que Dieu ait eu les yeux sur l'Égypte pendant tout ce temps-là, et que Dieu ait permis que Abraham passe en Égypte, que finalement tout le peuple d'Israël passe en Égypte et qu'il passe un temps important en Égypte. Parce que vous savez qu'à l'époque, l'Égypte était parmi les nations les plus civilisées, les plus développées au niveau de l'époque. Et à plusieurs niveaux, c'était réellement très avancé. Quand on parle d'il y a déjà à peu près 3000-4000 ans, c'était vraiment avancé. Et vous savez, si Abraham avait accès ou aurait eu accès à la technologie qu'on a aujourd'hui, eh bien, sachez que avec son iPhone, c'est le genre de photo qu'il aurait pris. Et si on allait visiter Abraham ce matin qui nous disait, hey, viens voir mon album de photos, viens voir mes souvenirs d'Égypte, c'est ce genre de photo qu'on verrait. Et lorsqu'on voit la photo du Sphinx à gauche, peinte, et si nous, on était allés en Égypte et on comparait nos photos avec Abraham, peut-être que nous, notre photo ressemblerait un peu plus à celle en bas à gauche, à droite. Excusez-moi, je mélange toujours la gauche et la droite. Hein? Donc, j'ai des connexions dans le cerveau qui sont mélangées. Le Sphinx en bas à droite, ça, ce serait plutôt notre photo à nous qu'on présenterait à Abraham. Et Abraham dirait, hey, non, regarde, moi, dans mon temps, comment c'était? C'était tout neuf. Les pyramides existaient déjà depuis plusieurs siècles. Abraham a vu les pyramides. Et s'il avait son iPhone, il aurait pu dire à Sarah, place-toi devant les pyramides, je vais te prendre en photo. Depuis 300 à 400 ans, les pyramides étaient en place et les différents grands monuments importants de l'Égypte étaient déjà là. Pour vous dire que c'était une civilisation réellement avancée, réellement développée. Et se peut-il que Dieu ait les yeux sur l'Égypte à partir de ce temps-là, depuis le début? Vous savez, si on continue, donc on parle du iPhone d'Abraham, si on parle de la sortie d'Égypte, ils ont passé 400 ans en Égypte et on sait que ce ne sont pas tous les pharaons qui s'égalent tous. Et il y en a qui ont réellement mis le peuple d'Israël en esclavage parce qu'ils ont eu peur d'eux. Ils ont eu peur que le peuple d'Israël devienne trop puissant et qu'il prenne trop de place dans le pays d'Égypte, donc ils l'ont réellement accablé de durs travaux. Et finalement, Dieu a permis à son peuple de sortir d'Égypte après 400 ans, d'avoir vécu en Égypte. Et plusieurs commentateurs mentionnent qu'il y aurait eu probablement jusqu'à un tiers des Égyptiens qui étaient convertis à Yahvé, au Dieu d'Israël, au temps de l'Exode. Donc, il s'est passé quelque chose là-bas. Ils ont discuté un petit peu, ils ont échangé un petit peu. Et lorsqu'on regarde un verset intéressant, on en a un dans Exode qui confirme qu'il s'était passé de quoi. Pendant ce 400 ans, comme je disais, ils ont peut-être pas dit « Hey, on est missionnaire », parce que le mot missionnaire est un mot plutôt moderne, mais ils ont réalisé qu'ils devaient vivre pour Dieu, même s'ils étaient dans un autre pays. Et ici, dans Exode 12, verset 37-38, les Israélites partirent de Ramsès en direction de Soukhot. Ils étaient environ 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes et les enfants. Une foule nombreuse et composite se joignit à eux. On a souvent pris l'habitude de dire, oh, c'est le peuple d'Israël, les Juifs sont sortis d'Égypte. Il n'y a pas seulement eu les Juifs qui sont sortis d'Égypte. Ça nous parle d'une foule nombreuse et composite. Des Juifs, des Égyptiens et peut-être d'autres expatriés de différents pays alentours qui, au contact des Israélites, sont venus à la connaissance de Dieu. Sont venus à connaître le Dieu d'Israël, le grand Dieu d'Israël. Et lorsque l'Exode a eu lieu, il y a énormément d'étrangers, de non-Juifs, qui sont sortis avec le peuple d'Israël. Et je vous avais récemment montré un verset, je pense, quand on avait fait la soirée concernant le Sénégal, un verset d'Ésaïe 19, qui est un texte merveilleux, c'est dans la parole de Dieu, dans toutes les Bibles, et qui dit, en ce jour-là, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Assyrie, c'est l'Irak. L'Assyrie, où les Assyriens iront en Égypte, et les Égyptiens en Assyrie. Et en réalité, c'est pour ça que souvent, il y a eu plusieurs guerres au niveau du peuple d'Israël. Parce que si vous étudiez, comme on avait vu tout à l'heure, la carte de la Mésopotamie, on avait des grandes puissances comme Babylone qui était en Mésopotamie, on avait une grande puissance qui était l'Égypte, et c'est comme si Israël était comme sur le trottoir. Lorsque les gens se visitaient, bon, ils passaient par Israël. Donc, il y avait pas mal de circulation en Israël. Et il y a eu souvent des guerres et des conflits qui sont venus de là aussi. Les Assyriens, donc les Irakiens iront en Égypte et les Égyptiens iront en Irak. Et les Égyptiens, avec les Irakiens ou les Assyriens, rendront un culte à l'Éternel. En ce jour-là, Israël sera troisième. Ah non, ça se peut pas, Gaétan. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu ici. En ce jour-là, Israël sera troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction par toute la terre. Que l'Éternel des armées bénira en disant, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage. Wow! Israël, troisième avec l'Égypte et l'Irak. Vous voyez un peu le cœur de Dieu? Aujourd'hui, nous nous regardons et nous classifions le monde par religion. Oh, il y a les bouddhistes ici, il y a les hindouistes là-bas, il y a les musulmans ici. Ah, faites attention à eux. Il y a les chrétiens de l'autre côté, il y a les catholiques, il y a les évangéliques. Je suis pas sûr que Dieu fasse la même séparation ou la même ségrégation dans sa tête. Je crois que Dieu veut qu'aucun ne soit exclu de son plan. Si on regarde d'autres aspects intéressants dans l'Ancien Testament, on voit la loi que Dieu a donnée au peuple d'Israël. Ce qu'on appelle les 10 commandements, on l'appelle aussi le décalogue. Les 10 commandements, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'appliquent à toutes les cultures. Ce sont des commandements, ce sont des lois, ce sont des règles simples qui s'appliquent à toutes les cultures. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà il y a plusieurs millénaires, lorsque la loi de Dieu a été donnée au peuple d'Israël, il y avait un thème révolutionnaire qui revenait souvent dans la loi, de prendre soin des étrangers. C'était révolutionnaire parce que ce n'était pas un terme qui était réellement appliqué. Même à l'époque d'Abraham, il y avait ce qu'on appelait le code d'Amourabi, qui était un code de loi qui était utilisé par plusieurs grandes puissances. Certaines lois de base. Si on se réfère aussi à une des paroles de Jésus, Jésus a dit, mais les fils sont exemptés des pots. C'est les étrangers qu'on taxe, qu'on impose, mais les fils en sont étrangers, en sont épargnés. Il y avait un terme que Jésus a utilisé pour parler de la coutume des nations de l'époque, qui était les étrangers dans le pays, eux, OK, on va les asservir, ils auront une taxe à payer, ils ont un impôt à payer, et quelquefois c'est chez eux qu'on va les payer, qu'on va les puiser pour avoir des esclaves, des gens qui vont travailler à notre solde. Et ça s'est fait dans énormément de pays. Mais lorsque Dieu a donné la loi à son peuple, il y a eu une approche absolument différente de tout ce qui se faisait à l'époque. Et si on regarde quelques versets au niveau de la loi, un des versets ici, « Tu n'exploiteras pas l'immigrant et tu ne l'opprimeras pas car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. » Et un autre verset qui lui ressemble, que j'ai pas mis pour gagner du temps, mais qui dit la même chose, « Vous n'opprimerez pas l'étranger parce que vous-même, vous savez ce que c'est d'être étranger. » Dans un autre verset, c'est comme ça que la parole de Dieu le rapporte. Vous-même, vous savez ce que c'est être étranger dans un pays, donc vous ne faites pas la même chose que ce que vous avez déjà subi. Le meilleur exemple, comme je disais tout à l'heure, le peuple d'Israël a souffert en Égypte. Ils ont été opprimés, ils sont devenus esclaves, et c'était une coutume qui était assez répandue. De mettre un fardeau, vraiment un joug pesant sur les gens qui étaient considérés étrangers au peuple en question. Mais Dieu parlait autrement. Un autre verset, si un immigrant vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Vous traiterez l'immigrant en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été immigrant dans le pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu. C'est comme si Dieu prend la peine de dire, non, vous n'allez pas continuer de suivre ce qui se fait habituellement, ce que les autres peuples font, c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous dit, c'est ce que vous allez faire maintenant. Vous traiterez les migrants parmi vous comme un autochtone, tu l'aimeras comme toi-même. Lorsqu'on commence à voir comment ça se passe, on voit que le plan de Dieu des fois est un peu plus grand que ce que je peux comprendre moi-même. Qu'est-ce que Dieu voulait réellement? Un autre passage aussi, concernant la loi. Ce passage-là est dans Nombre, et c'est un passage que je vais un peu expliquer, parce que lorsqu'il donne la loi, en même temps, Dieu mentionne, il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'immigrant en séjour. Ce sera une prescription perpétuelle pour toutes vos générations, il en sera de l'immigrant de vous, comme de vous devant l'Éternel. Ici, Dieu prend la peine de dire, il n'y aura pas deux manières de servir Dieu. Il n'y aura pas de manière de louer Dieu, il n'y aura pas de manière d'apporter des sacrifices et d'appliquer les différentes lois. Il n'y a pas de différence, c'est ce que Dieu dit simplement. Il y aura une seule prescription pour toute l'assemblée. Et l'assemblée comprenait tout le monde, tout simplement, tous ceux qui étaient là. Si on continue, d'autres aspects de l'Ancien Testament, dans les psaumes, à quelques reprises, on retrouve encore ce même élément. Ici, dans le premier verset, psaume 9, verset 12, « Célébrez par des chants l'Éternel, le roi de Sion, et proclamé parmi les peuples, c'est au fait. » J'en ai mis juste deux parce que je voulais pas qu'on prenne trop de temps dessus, mais on a toujours ce même thème de « proclamer parmi les peuples, c'est au fait. » Le psaume 67, c'est un psaume très court de 7 versets. Les peuples te célèbrent, ô Dieu, tous les peuples te célèbrent. C'est un chant, mais ça parle encore dans le même sens. J'ai pas mis le verset parce qu'il mérite d'être lu au complet. Je vous encourage à le lire arrivé à la maison, où c'est ce thème qui revient, que ce sont tous les peuples que Dieu appelle à le louer, à le connaître et à bénéficier de sa grâce, bénéficier de ses dons, de son amour. Si on continue encore, on veut comprendre réellement les intentions de Dieu. Vous savez, lorsque Salomon a fabriqué le temple, lorsque, près de l'accomplissement du temple, un jour, Salomon est allé offrir des sacrifices à l'Éternel et pendant la nuit, Dieu lui est apparu, un songe, où Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Wow! « Demande-moi ce que tu veux, je vais te le donner. » À qui aimerait ça? Entendre cette parole-là. Pour vrai, là, je ne parle pas d'un rêve, je parle en vrai d'un songe, d'une réelle parole venant de Dieu. « Demande-moi ce que tu veux, je te le donne. » Même les rois les plus puissants de terre ont jamais osé parler comme ça. Ils ont dit juste, ils vont dire jusqu'à la moitié de mon royaume. Je suis généreux, là. Demande-moi ce que tu veux jusqu'à la moitié de mon royaume, mais pas plus. Ici, Dieu dit à Salomon, demande-moi ce que tu veux. Et la réponse, je ne l'ai pas mise sur l'acétate, mais la réponse de Salomon, elle est vraiment significative. Salomon dit, accorde à ton serviteur un cœur attentif. Un cœur attentif à toi, à ta présence, pour pouvoir gouverner ce peuple. Et c'est la prière de Salomon, « Seigneur, donne-moi un cœur sage, un cœur attentif, parce que je réalise que la tâche que tu m'as donnée n'est pas facile. D'être un dirigeant de ce peuple, Seigneur, j'ai besoin de ta sagesse, que tu puisses me diriger. » Et lorsque ça a été le moment de dédicace du temple, Salomon a offert une prière qui est assez imposante, si je peux dire, une prière qui est assez étoffée concernant le temple. Et j'ai sorti un petit extrait ici de cette prière de Salomon qu'on retrouve dans ce passage-là, dans 1er Roi, chapitre 8. Et la prière fait presque tout le chapitre. Et lorsqu'il prie, il prend le temps de prier aussi pour l'étranger. Il dit de même, c'est dans sa prière, dans le cœur de sa prière, de même pour l'étranger qui, lui, n'est pas de ton peuple, d'Israël. Quand il viendra d'un pays lointain, à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, c'est toi qui écouteras des cieux. Du lieu où tu sièges, tu accorderas tout ce que l'étranger aura imploré de toi, afin que les peuples de la terre connaissent ton nom. Pour te craindre, comme ton peuple d'Israël, et qu'ils reconnaissent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Et même Salomon, dans cette sagesse que Dieu lui a accordée, on voit ici, dans le cœur de sa prière, « Seigneur, même quand l'étranger va venir de l'autre bout, de loin, pour t'invoquer, parce qu'il y en a qui vont venir, parce qu'ils vont entendre parler de ce Dieu que tu es, Seigneur, accorde-leur ce qu'ils te demandent. Traite-les comme tu nous traites. » Et je crois que cette sagesse-là, en réalité, ce n'est pas une sagesse humaine, c'est une sagesse qui venait de Dieu. Et ça représente, je crois, réellement l'intention de Dieu. Et si on continue, quelques histoires de l'Ancien Testament, des histoires intéressantes aussi qui sont révélatrices ce matin. Une histoire, c'est l'histoire de Naaman. Naaman était un chef militaire apprécié de son patron, du roi, apprécié de tout le monde. Il était adulé de tout le peuple. Il y avait juste un hic. Juste un petit problème, il était lépreux. Et ça, c'était tout son malheur. Naaman, à quelque part, je ne sais pas, au cours de ses contacts, au cours de différentes guerres, il s'est retrouvé lépreux. Il ne l'était pas depuis le début, mais il a contracté cette maladie. Et c'est une belle histoire parce que Naaman est un Syrien. Naaman est une personne qui ne connaissait pas Dieu, la révélation de Dieu du peuple d'Israël. Mais Naaman, à travers ses différentes conquêtes, il avait ramené une jeune fille qu'il a remis à sa femme pour qu'elle puisse aider sa femme. Une petite jeune fille, la Bible parle d'une petite jeune fille, d'une servante qui était une servante de sa femme. Et lorsque elle a entendu que Naaman était lépreux, que c'était vraiment une situation catastrophique, elle a simplement dit, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Et pour ceux qui ne connaissent pas trop l'histoire de Naaman, Naaman est allé apporter cette parole-là au roi de Syrie. Il a dit, « Écoute, j'ai une jeune fille à la maison qui dit que si je vais en Israël, le prophète qui était Samarie, il va me guérir de ma lèpre. » Et le roi dit, « Pas de problème, je t'écris des lettres. » Et il envoie des lettres plus que recommandées avec le sceau royal au roi d'Israël. Et le roi reçoit la lettre et il ouvre et c'est écrit, « Écoute, mon cher collègue, je t'envoie mon chef d'armée pour que tu le guérisses. » Le roi regarde ça et il dit, « Mais c'est quoi ça? Mais lui, il veut la guerre, c'est une demande impossible. » Et le roi ne réalise pas du tout ce qui s'était passé dans le foyer chez Naaman, cette jeune servante qui connaissait Dieu et qui avait foi en Dieu, qui a dit, « Hey, s'il allait voir le prophète à Samarie, le prophète va le guérir. » Tout ça, il était inconscient. Et peut-être que le roi, n'étant pas nécessairement à ce moment-là un roi qui était proche de Dieu, le roi, il s'est fâché et puis il a déchiré la lettre et il dit, « C'est ça, il veut la guerre. » Mais le prophète avait entendu. Et lorsque le prophète a entendu ce qui s'est passé au palais, il est allé voir, il a envoyé un message pour dire, « Écoutez, envoyez-moi-le, ce chef d'armée. » Et Naaman s'est préparé avec toute une caravane, avec énormément de richesses, beaucoup de serviteurs, des soldats, et s'est retrouvé chez le prophète. Et le prophète est dans sa maison, et on entend tout ce bruit-là, ces bêlements, ces meuglements de chameaux. Il se tourne à son serviteur et dit, « Ah, c'est vrai, Naaman est arrivé. Va lui dire de saucer cette fois dans le Jourdain. » Et il ne bouge pas. Le serviteur sort dehors et dit, « Oui, bonjour, mon maître me dit, va te saucer cette fois dans le Jourdain. Merci, au revoir. » Et il s'en retourne dans la maison. Et Naaman devient rouge de colère. Naaman est en fureur. Et là, on sait pourquoi, parce qu'il se dit, « Je me disais, le prophète va sortir vers moi, il va faire toute une cérémonie à la hauteur de ma gloire, de ma personne. Et là, il va faire quelque chose de vraiment particulier, puis je vais être guéri. T'allais me saucer dans le Jourdain. Écoute, j'en ai des rivières dans mon pays. » Et il se préparait à partir alors que ses serviteurs ont dit, « Écoute, si tu avais demandé de quoi de vraiment difficile, tu l'aurais fait. Essaye donc. On n'a pas fait ce 500 km, 1000 km. J'ai pas compté la distance, mais on n'a pas fait toute cette distance-là pour retourner chez nous sans qu'il s'est rien passé. On aimerait au moins essaye. » Et ils ont réussi par leur sagesse à convaincre Naaman d'essayer. Naaman est allé saucer cette fois dans le Jourdain et il s'est retrouvé avec une peau de bébé. Ah oui. Pas de pommade. Pas de crème. Pas de truc qu'on va payer à 50 piastres la bouteille de 2 onces. Il est juste allé saucer dans l'eau du Jourdain et s'est retrouvé avec une peau de bébé. Wow! Et là, il a réalisé que ça marche. Et il est retourné pour vouloir donner des cadeaux au roi. Mais voici le cœur de sa réponse lorsqu'il retourne vers le prophète. « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Je reconnais que le Dieu d'Israël est le Dieu de toute la terre. » Littéralement, c'est ce qu'il mentionne au prophète lorsqu'il était là. Et c'est une histoire merveilleuse. C'est une histoire où on voit que le peuple d'Israël a accompli sa tâche. Cette jeune fille a accompli son témoignage, a accompli sa tâche, a accompli la volonté de Dieu en permettant à quelqu'un d'autre qui n'avait aucune connaissance de ce Dieu de le mettre en contact. Et s'il va à Samarie, là, il va voir qu'il y a un Dieu en Israël. Une autre histoire intéressante, mais elle est en sens inverse. Ça, c'était une bonne histoire. Je vous en raconte une moins bonne. L'histoire de Jonas. Un autre Israélite, où Dieu lui a demandé une tâche. Va parler à ces gens qui ne me connaissent pas de leur situation. Leur compte devant moi est en souffrance. Et je vais bientôt réclamer mon dû. Je vais envoyer des huissiers. Dieu dit à Jonas, « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Va leur dire que je suis pas content, que là, leur compte est passé date et que je dois agir. » On n'a pas la même réaction que la jeune fille. Donc, Dieu dit, « Jonas, va à Ninive. » Tout de suite, Jonas se lève et s'enfuit à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Et ceux qui connaissent l'histoire de Jonas, vous savez que Jonas a fait un très long détour et que finalement il est allé à Ninive. Et que finalement il a parlé de la part de Dieu pour expliquer aux gens de Ninive, si c'est des Ninivois ou des Ninivites, je sais pas. Il est allé leur dire ce qui se passait et c'était quoi leur situation devant Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé? Les gens ont été tellement touchés, ils se sont repentis, ils ont changé d'attitude, ils ont dit « si c'est vrai, on veut changer », ils ont réagi. Mais Jonas aussi a réagi. Et là, on comprend pourquoi Jonas avait fui. Alors qu'il devait aller à Ninive, Jonas avait fui à Tarsis. On le comprend dans le quatrième verset. C'est un livre très court, 4 chapitres. Et dans le quatrième chapitre, les premiers versets du chapitre, on voit ce qui se passe. Ici, Dieu dit à Jonas, non, c'est même pas Dieu qui le dit à Jonas ici. Cela fut très mal pris par Jonas qui se fâcha. Jonas, il l'a mal pris. Qu'est-ce qui a mal pris Jonas? Que les gens de Ninive arrêtent de faire ce qu'ils faisaient. Que les gens de Ninive changent d'attitude. Et que les gens de Ninive décident de mettre en pratique ce que Dieu leur demande. Un changement de cœur, un changement d'attitude de la part des gens de Ninive qui devrait être reçu avec un état de joie, un esprit vraiment de gratitude, de dire « Wow, c'est merveilleux ce que Dieu, tu m'as permis de faire, tu m'as permis de faire plutôt. » Mais ici, c'est le contraire. Jonas l'a vraiment mal pris. Il est pas content, il est de mauvaise humeur, et il pria l'Éternel en disant « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. » Qu'est-ce que Jonas voulait prévenir? Jonas voulait pas que ça arrive, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce, qui est compatissant, lent à la colère, riche en bienveillance et qui regrette le mal. C'est grave. Jonas est en train de dire, je te l'ai dit, je voulais pas y aller parce que je savais que tu allais leur pardonner. Puis moi, je voulais pas. Parce qu'une petite précision, les gens de Ninive étaient ennemis d'Israël. Oups! Ils étaient ennemis d'Israël. Dieu, tu me demandes d'aller parler à mon ennemi pour qu'il puisse changer d'attitude, que tu puisses le pardonner et que tu vas le bénir. Non, 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 non. Je garde la bénédiction pour moi. Et vous connaissez le dernier chapitre? Dieu dit, bon, Jonas est de mauvaise humeur, là. Il fait pousser un plant de ricin. Donc, il fait pousser une plante, parce que vous savez ce que Jonas a fait? Une fois qu'il est allé prêcher à Ninive, il est sorti de la ville, il est allé sur la colline, il s'est installé une petite cabane, il s'est assis là, puis il attendait que Dieu punisse et détruise les gens de Ninive. Et il attend, puis il se passe rien. Et là, il commence à s'impatienter. Dieu voit qu'il est de mauvaise humeur. Dieu veut encore le bénir. Dieu fait pousser une plante au-dessus de sa tête pour qu'il puisse avoir de l'ombre. Et là, il est tout content. Ah, ça me soulage de la chaleur du soleil. Mais le lendemain, Dieu permet aussi à un ver d'être béni et d'aller grignoter la plante. Et la plante meurt sur le coup. Et là, Jonas est encore plus de mauvaise humeur. Jonas veut mourir. Jonas est vraiment fâché, en colère contre Dieu. Et le dernier verset du livre de Jonas, je ne vais pas le mettre sur l'écran, à vous d'aller le lire dans votre Bible. Le dernier verset, Dieu dit à Jonas, « Écoute, Jonas, tu te mets en peine, tu es fâché pour une plante qui a poussé tout seul, qui est morte tout seul. » Alors que moi, je vois dans cette ville 120 000 hommes qui savent pas discerner leur droite de leur gauche. 120 000 êtres humains. Tu réalises, Jonas, la différence entre ta préoccupation et ma préoccupation? C'est pas une histoire nécessairement positive. Mais des fois, notre cœur ressemble au cœur de Jonas. On est donc content d'être dans bonne gang. Et on regarde les gens qui ne nous ressemblent pas et on se dit, ah, phew, une chance. Mais quelquefois, on les regarde avec, dans notre cœur, une pensée de mépris. C'est ce que je disais tout à l'heure au début, si nous regardons les pharisiens, leur comportement à l'époque de Jésus, jamais on pourra discerner ou on pourra comprendre quelle était réellement l'intention de Dieu à travers leur comportement. Peut-être qu'on ne pourra pas le discerner non plus, même à travers le comportement du peuple d'Israël qui sert encore Dieu selon la loi, selon les traditions. Et on regarde ça et on se dit non, ils font tout entre eux. Est-ce que ça veut dire que Dieu s'est monté un petit club privé? Mais malheureusement, quelquefois, lorsque un étranger regarde l'Église, peut-être qu'il peut penser encore ça. En as-tu le droit d'aller à ton Église? C'est-tu permis? N'ayons pas le cœur de Jonas. Ayons le cœur de cette jeune servante qui dit, « Hey, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu merveilleux. Il y a un Dieu qui veut plus que ça. » Et vous savez, juste ce matin, je vais m'arrêter ici. J'aimerais qu'on puisse continuer la semaine prochaine avec la déportation. Le peuple d'Israël qui a été déporté. Toute la dynamique que Dieu a mis en place pour nous conduire jusqu'à nous aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec la connaissance de l'Évangile. Mais juste avant de terminer, ce matin, nous allons prendre la Sainte Cène. Mais avant de terminer, j'aimerais qu'on puisse regarder le cœur de Dieu pour toi. Dans la première diapo, je mentionnais, Dieu ne veut pas qu'aucun ne soit exclu. Dieu veut inclure tout le monde. Et déjà, à travers un peu ce petit survol de l'Ancien Testament, peut-être que le peuple d'Israël, je vais inviter même le groupe musical à s'avancer tout de suite, on voit que le peuple d'Israël, à travers leur comportement, ils ont développé doucement cette idée d'élitisme. Nous sommes bons. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. C'est nous les meilleurs. Et doucement, le peuple d'Israël a développé cet esprit d'élitisme, de ségrégation, si je peux dire, ou de restriction. Ici, on a un merveilleux passage dans Jérémie. Jérémie a prononcé ces paroles envers le peuple d'Israël qui était déjà allé en déportation. On va voir plus les détails la semaine prochaine. Et ce peuple était dans la souffrance, dans la désolation. On les avait pris, on les avait amenés à Babylone, des milliers de personnes, et dans quelques autres endroits en dehors du peuple d'Israël. Ils étaient là et c'est comme si la fin du monde était arrivée. Jérémie leur a écrit pour les encourager. Et on a un beau passage ici qui dit, « Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Et je crois que ce verset s'applique encore pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous ce matin. « Moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur. » Déclare l'Éternel, « Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. » Je regardais une entrevue récemment et j'entendais des gens dire « Oui, bon, j'ai été une bonne personne, donc Dieu devrait m'aimer. » Oh, et des gens étaient interviewés sur la rue et je me souviens, un homme a dit « Non, 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 moi j'ai été trop. J'ai fait trop de bêtises, j'ai fait trop de mauvais coups. Non, moi je pense pas que c'est pour moi. » Dieu veut qu'aucun de nous soit exclu ce matin. Et si tu te sens parmi ceux, non, moi, c'est bien beau ce que tu dis, Gaétan, ce matin, c'est peut-être bon pour toi parce que toi, là, tu mènes une bonne vie depuis des années si tu savais la vie que je mène. Dieu te répond, ben moi, je connais les plans, les projets que j'ai conçus en ta faveur. C'est ce que Dieu veut t'apporter comme parole ce matin. Je connais les plans, les projets que j'ai en ta faveur. Je les ai conçus pour toi. C'est des projets de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir qui est plein d'assurance. Afin de te donner un avenir. Lorsque le peuple d'Israël a entendu ces paroles, ils étaient devant rien. Tout était fini. Leurs grands espoirs s'étaient évanouis. Ils étaient dans un autre pays déporté. Souvent, on ne se sent pas à la hauteur de Dieu. On se pose la question. On se dit, comment Dieu pourrait m'accepter? Depuis que Dieu a demandé à Abraham, « Abraham, deviens une bénédiction. » Dieu avait une intention. S'assurer que personne ne soit oublié. S'assurer que personne ne soit exclu. S'assurer que tous viennent à sa connaissance, que tous goûtent sa puissance, son amour, ses soins, sa bénédiction. Et c'est le désir de Dieu ce matin, pour chacun d'entre nous, chacune de nos vies. Ne laissons pas le doute. Ne laisse pas les fardeaux, le découragement, les blessures que certains t'ont affligées, la tristesse qui est dans ton cœur, les inquiétudes qui sont là, les situations difficiles financièrement. Ne laisse aucune situation mettre un mur entre toi et Dieu ou te faire dire non, c'est pas pour moi. Ce matin, Dieu veut que personne ne soit exclu. Et je veux terminer avec cette diapo. Dieu veut que tu sois inclus ce matin. Que tu sois inclus dans sa famille et que tu puisses recevoir son pardon. Peut-être que vous êtes ici pour la première fois ce matin. Tu es ici pour la première fois ce matin. Tu dis, c'est la première fois que je mets les pieds dans cette église-là. Il y a des choses que je trouve un petit peu bizarres. C'était quand même intéressant, Gaétan, ce que tu as dit. Mais ça s'applique pas pour moi. Mais j'ai juste une question à poser. Pourquoi? Pourquoi ça s'appliquerait pas à toi? Ben, parce que je viens pas dans cette église. Ben, désolé de t'annoncer que Dieu n'est pas le Dieu d'une église. Désolé. Dieu veut que tous puissent recevoir sa présence dans sa vie. Dieu veut que tous puissent lui confier sa vie. Peut-être vous êtes ici pour la première fois et c'est, je vais t'inviter simplement rapidement ce matin à dire, confie ta vie à Dieu. Essaie-le. Tu dis non, j'en ai trop fait. Ben, parfait, t'es éligible. Vous savez, comme des fois, on vous dit, ouais, t'es l'heureux gagnant, t'es l'heureux gagnant d'une possibilité de gagner à 1 million. Des drôles de bizarreries, de publicité quelquefois. Ce matin, on est tous éligibles à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir le pardon de Dieu, à recevoir son amour, ses soins, et à permettre Dieu de transformer nos cœurs, d'apporter la joie et la paix qu'on a tellement besoin qu'on peut pas trouver vraiment dans ce monde. C'est ce que Dieu veut faire ce matin. Fermons nos yeux un moment. Si c'est votre désir, simplement dites-le à Dieu. Il n'y a pas de cérémonie pour devenir chrétien. Il n'y a pas une prière super particulière pour devenir chrétien. Il y a simplement d'exprimer ton besoin, ton désir auprès de Dieu. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé ensemble dans ta présence ce matin. Et Seigneur, lorsque nous regardons, Seigneur, toute l'histoire depuis le début, sous ton angle, ce que tu voulais réellement, ce qui était réellement ta passion, ce qui réellement battait le battement de ton cœur, Seigneur, c'est que tous viennent à ta connaissance. Seigneur, ma prière est que par ton Saint-Esprit, tu puisses nous permettre de te découvrir si nous ne l'avons pas encore fait ce matin. Fais sentir ta présence à chacun d'entre nous. Père éternel, ce matin, permets que nous puissions te toucher. Tu vois nos situations, tu vois nos vies, nos difficultés. Père, reçois nos vies, telles que nous sommes. Viens te manifester. Viens nous délivrer de la crainte, de l'inquiétude. Viens nous délivrer de nous-mêmes et viens nous donner la force, la puissance et la grâce de vivre pour toi, Père éternel. Dieu Tout-Puissant, merci Seigneur. Amen. J'aimerais inviter les placés à s'avancer. J'aimerais qu'on puisse prendre la Sainte-Seine ce matin. Et j'aimerais...